En ce milieu de saison estivale, on aborde différents sujets liés aux problématiques, enjeux et vies sur la commune de L'Île-Dieu. Carole Charvaux, maire de L'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Anne-Claude Kabilic, première adjointe à la mairie de L'Île-Dieu, bonjour.
Bonjour.
Anne-Claude, considérez-vous que la commune de L'Île-Dieu est en surtourisme du 15 juillet au 15 août, passant de 5000 personnes en hiver à environ 35 000 en cette période?
35 000, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais
alors le chiffre?
Oh, 20 000 au pic.
25.
Ouais, 25 000 au pic début août peut-être. Parler du surtourisme, peut-être pas, mais plutôt de forte influence. Il faut bien se rendre compte que l'influence permet à nos commerçants d'ouvrir toute l'année. C'est quand même le tourisme qui nous fait vivre. Les commerces, les supermarchés, la maison de la presse, les restaurants, donc on en a besoin.
En cette période, les conflits avec la population locale sont-ils nombreux?
Non, pas à notre connaissance. Ça reste à la marge, mais on met en place, il y a un CLSPD qui est mis en place tous les lundis après-midi, avec tout ce qui est force de l'ordre, les pompiers, tout ça, tout ce qui touche aussi à la mer, et les sauveteurs, les vigiles. Donc il y a un point hebdomadaire et pour l'instant, il n'y a pas d'intervention grave sur la commune.
Peu d'accidents également, pour l'instant?
Pour l'instant, oui.
On a eu juste une intervention au niveau du gaz, c'est
oui,
vrai,
voilà.
Il y a eu une fuite de gaz, mais bon, c'était un appareil de cuisson qui était défectueux,
ouais.
Qui a donc tué quand même deux personnes âgées, hein, il faut bien le dire, mais ça n'a rien à voir avec...
99 ans et 100 ans, il me semble.
C'est ça, mais ça n'a rien à voir avec l'affluence ou quoi que ce soit. C'est à la marge, c'est un accident regrettable, un accident domestique. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que pour les personnes âgées, il faudrait des détecteurs de monoxyde de carbone dans toutes les maisons, parce qu'en fait, ça ne sent pas. Et
le gaz voilà. Ne sent pas, oui.
Non, c'est un gaz complètement inodore et qui peut tuer. Donc, il faudrait faire un peu, peut-être, attention aux vieilles personnes qui ont des appareils de cuisson au gaz. Il faut mettre un détecteur, comme ça, au moins, on est tranquille.
Anne-Claude Kabilic, quelles solutions sont ou seront mises en place pour peut-être limiter le surtourisme?
Eh bien, le vivre ensemble, c'est une priorité de notre mandat.
Qu'est-ce que vous avez appelé le vivre ensemble? Parce que c'est pas simple, des fois, le vivre ensemble.
Ben, c'est faire que tout le monde peut s'accorder, que ce soit ILER, résident secondaire, personne à la journée ou juste vacanciers qui viennent en location. C'est quelque chose qu'il faut qu'on doit tous vivre ensemble, on doit se respecter. Et donc, on va tout mettre en œuvre pour que cela se passe bien.
Et alors, vous allez mettre quoi en œuvre?
Alors, peut-être déjà la construction du pôle culturel qui peut réunir tout le monde.
On va en parler. Mm-hmm. Mais à part ça?
C'est une philosophie.
Carole Charvaux.
Ouais. C'est une philosophie de vie, c'est une philosophie qu'on met en avant dans notre mandat. C'est-à-dire, le vivre ensemble, c'est avec les résidents secondaires, c'est avec les vacanciers. On promeut toutes les manifestations, par exemple, au mois d'août. C'est vrai qu'il y a des manifestations, en général, plus pour les vacanciers, les résidents secondaires aussi. Eux aussi, ils font leurs propres manifestations. Par exemple, un lieu, une rencontre, mais c'est à destination aussi des îlets. Et en fait, ça fait un mélange. Et je pense qu'avec ça, on peut... C'est grâce à la culture, surtout. Je pense qu'on peut vivre ensemble. C'est vraiment L'Île-Dieu. Je pense que c'est un territoire de fête. Donc, ça peut nous rassembler quand même. Hein. La fête, c'est plutôt un lieu de rassemblement, quelque chose qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut partager. On peut partager des valeurs. Et je pense que la culture, vraiment, peut rassembler les gens.
D'ailleurs, le festival Viens dans mon île en est aussi une réalité.
Voilà, une manifestation.
Là, tout le monde peut, que personne on soit, on peut venir. Et le prix est quand même correct. Et du coup, on remercie d'ailleurs l'association de négocier des prix comme ça avec les chanteurs, parce que ça permet à nous aussi, population illaise, qui n'allons pas tout le temps sur le continent, de pouvoir... participer à ces concerts.
Est-ce que c'est simple sur la route de mélanger scooter, vélo, piéton, voiture? Est-ce que ça se passe bien actuellement?
Alors, actuellement, oui. Il n'y a pas trop d'accidents. Il y en a, hein. Je ne veux pas non plus dire qu'il n'y en a pas, ce n'est pas vrai. On travaille pour faire des pistes cyclables, mais par exemple, la boucle cyclable qui vient de s'ouvrir il n'y a pas si longtemps que ça, on a mis 10 ans à la faire. Donc, en fait...
La boucle cyclable, vous parlez de, par exemple, la boucle qui va de la Bergerie au Vieux-Château.
Oui, qui...
une véritable autoroute.
C'est en fait...
De vélo.
qui est avec un revêtement assez spécial, qui permet au vélo d'être beaucoup plus tranquille, qu'on peut être avec des enfants, etc. Donc, dans les vélos cargo, par exemple, de ne pas être tout le temps sur des cailloux. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir faire du vélo sur cette piste. Mais en fait, cette boucle cyclable, on met 10 ans à la faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des agences de l'État, la DREAL, pour ne pas la nommer, et la DDTM, qui nous forcent à avoir des normes. Il y a des normes, comme on est dans des sites classés, en fait, on est obligé de suivre ces normes-là. Et c'est très, très, très cher.
Donc, est-ce que grâce à cette piste cyclable, il y a moins de personnes sur les routes goudronnées, Carole ou Anne-Claude ?
Je ne pense pas. Franchement, je ne veux pas dire que oui, pour nous faire plaisir. Je ne pense pas, mais c'est beaucoup plus agréable. Beaucoup plus, je veux dire, quand il y a une carte qui est donnée à l'office de tourisme en disant « voilà cette piste cyclable », au moins celle-ci, on est en sécurité. C'est surtout ça, en fait, le but, l'objectif de cette piste cyclable, c'est qu'on soit en sécurité en vélo. Tandis que, par exemple, rue Pierre-Henri, pour ne pas la nommer, c'est vraiment un casse-tête. Mais on n'y arrive pas à détourner cette rue. Par la plage, on aimerait bien faire une piste cyclable, par exemple, sur...
La rue Pierre-Henri, c'est la rue qui va du port à Kerchalon.
C'est ça. Et donc, on aimerait bien la détourner sur la plage du Kerchalon. On faisait une petite piste cyclable, soit en pas goudronnée, justement, mais soit en tapis ou je sais
le
pas.
Le même revêtement que la piste cyclable actuelle, non ?
Non, on peut pas, parce que là, c'est sur une plage. Donc, est-ce que ce serait même des choses sur pilotis, vous voyez, avec du bois Mais en fait, même ça, on n'a pas le droit. Et c'est problématique parce que cette rue, elle est vraiment dangereuse. Il n'y a pas beaucoup d'accidents par rapport au nombre de voitures et de vélos qui circulent. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. En tout cas, on essaye avec les services de l'État de trouver des moyens, mais pas facile.
Les moyens vont être trouvés dans les saisons à venir ou vous ne le savez pas pour le moment ?
On se bagarre hein, depuis des années. Bruno l'avait déjà commencé quand il était maire. C'est compliqué de leur faire entendre raison. Et c'est vrai qu'on est sur un littoral qu'il faut préserver.
Protéger.
J'entends bien, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que là, c'est quand même la sécurité des gens qui est en jeu.
Carole, un système de gestion, toujours par rapport au surtourisme des flux des visiteurs, est-il envisageable sur l'île-Dieu ?
Il y a une étude qui est faite par l'AIP, l'Association des îles du Ponant, qui a été commencée il y a très peu de temps. Là. Ils vont sur toutes les îles du Ponant pour voir un petit peu quels sont les flux qui pourraient être restreints ou peut-être stabilisés. Nous, on a donné notre point de vue. Elle a vu l'office de tourisme, des élus, ces deux dames, en fait, qui sont venues pendant plusieurs jours. Mais par contre, c'est vrai qu'on a des différences par rapport aux autres îles du Ponant. Donc, ce n'est pas facile de comparer. C'est quand même une étude qui a été diligentée par cette association des îles du Ponant. Donc, on va suivre peut-être leurs études, enfin leurs prérogatives, leurs conseils. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément la volonté de diminuer le flux. C'est juste de le réguler.
Donc, comment allez-vous le réguler ? Essayez, surtout.
Essayez de le réguler, c'est-à-dire mettre des... En fait, élargir les ailes de saison. C'est-à-dire plus de touristes en amont et en aval et moins de touristes peut-être du 15 juillet au 15 août.
Parce c'est que déjà c'est le là, cas Vous oui. essayez déjà de faire ce système depuis plusieurs années.
Oui, oui.
Ça ne fonctionne pas.
Ça fonctionne un petit peu. On a plus de monde quand même au mois de juin et au mois de septembre qu'avant. Et puis, il y a un gros travail de l'Office de tourisme en fait, qui est fait justement en amont, au téléphone. Ils disent aux touristes, venez plutôt en juin, venez plutôt en septembre. Il fait beau, enfin, normalement. Venez plutôt à cette période, il y a beaucoup moins de monde. Les locations, vous en trouverez beaucoup plus. Donc, venez plutôt à cette période pour essayer d'être mieux, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de monde du 15 juillet au 15 août. Surtout, oui, du 1er août au 20 août, plutôt.
Le résultat de l'enquête des îles du Ponant sera connu quand ?
Je pense à la fin de l'année.
fin de l'année 2024.
Oui, on oui, est bien 2024, d'accord. Hein. Oui, pardon.
Toujours par rapport au surtourisme, Carole Charot, maire de Île-Dieu, régulez-vous les locations de courte durée?
Alors,
parce que ça aussi, c'est une piste de réflexion peut-être pour la commune de Île-Dieu.
C'est pas simple là non plus. En fait, pour réguler les locations de courte durée, on est obligé de passer par plein d'étapes. Et l'étape première, c'est de faire une stratégie locale d'habitat. Je crois que
c'est en cours.
Oui, Emmanuel Maillard était venu avec Elsa Marchais, donc qui est chargée de mission Habitat, qui a été embauchée en janvier 2023 pour pouvoir, entre autres, avoir cette mission de réguler ces locations. Et la stratégie locale d'habitat, là, ça y est, le cabinet d'études a été mis en place. Donc, en fait, les résultats, ce sera que en juin 2025. Donc ça, c'est la première étape. Et après, on va mettre en place une stratégie aussi, mais peut-être en même temps, mais un changement d'usage. C'est-à-dire que les locations de courte durée devront s'enregistrer à la mairie. Mais ça aussi, ça prend du temps. Et surtout, mettre en place peut-être des quotas ou pas. Comment on fait, vers où, quel est le nombre? Est-ce que c'est par rapport à un zonage? Est-ce que c'est par rapport à un nombre? Tout ça, il faut le réfléchir en amont. Attention, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup d'îlets qui louent des maisons ou des petits Airbnb pour payer, par exemple, leur prêt pour pouvoir se loger.
Pour rester dans leur maison principale.
Voilà. Donc, surtout, on ne veut pas priver ces gens-là, ces îlets, de ce revenu qui leur permet de vivre, hein, tout simplement, hein, de payer leur prêt. Mais par contre, peut-être réguler en nombre de Airbnb, par exemple, un propriétaire qui en aurait 5 ou 6, ben, lui dire, ben non, il en faut que 2, quoi.
Peut-être limiter aussi le nombre de jours de location?
Ben, peut-être. Voilà. Tout ça, on va le travailler en amont, mais c'est vraiment, vraiment difficile et on ne peut pas le faire toute seule.
Cette stratégie sera connue quand?
Alors, la stratégie.
Ou la mise en place?
La mise en place, en tout cas, la stratégie juin 2025. Il va faire un diagnostic. Tout ça, c'est un cabinet d'études, hein, qui va nous aider à faire toute cette stratégie.
La surtaxe sur les résidences secondaires en place, par contre, de 60%?
Alors, la surtaxe des résidences secondaires, elle sert à quoi? C'est surtout...
Non, mais elle est en place.
Elle est en place depuis l'année dernière. Et en fait, c'est 60% de la taxe d'habitation. Mais attention, c'est sur la part communale. Hein. Ce n'est pas 60% en plus de toute la taxe d'habitation. Donc, c'est moindre, hein, par rapport à ce qui a été dit.
C'est sur la part communale.
C'est sur la part communale.
C'est important de le préciser.
Oui, c'est important. Et donc, c'est...
Parce qu'il y a eu pas mal de cris beaucoup par rapport à ça.
Ben, bien sûr, c'est normal. Hein. Quand on dit 60%, une surtaxe de 60%, forcément, je me mets à la place des résidents secondaires qui payent leurs taxes. Effectivement, ils pouvaient être inquiets. Mais non, c'est sur la part communale. Donc, pourquoi on a fait ça? C'est surtout pour améliorer le logement sur les lieux des îlets, tout simplement. Parce que si on ne met pas en place des choses, ça veut dire que tous les îlets vont devoir partir, enfin pas tous, mais une bonne partie. Les nouveaux travailleurs qui travaillent dans les EHPAD, dans les hôpitaux et ailleurs, dans les boulangeries, dans les mairies, dans la mairie, etc., ils ne vont pas pouvoir venir habiter sur l'île-Dieu. Donc, les résidents secondaires, les vacanciers et les îlets, ils auront beaucoup moins de services. Donc, de toute façon, on est obligé vraiment d'améliorer le logement sur l'île-Dieu.
Logement sur l'île-Dieu, pas simple, également amélioré.
Oui, bien sûr.
On déborde un petit peu du surtourisme, on est d'accord.
Mais c'est vrai que oui, c'est pas simple. Le logement sur l'île-Dieu, c'est pas simple parce qu'il y a des coûts de construction qui sont énormes. Donc, même pour la mairie, c'est pas simple de construire. Les bailleurs sociaux, encore moins, parce qu'ils ont des...
Bailleurs sociaux, vous parlez de Vendée Habitat.
De Vendée Habitat, mais ça peut être un autre bailleur social qui voudrait bien venir chez nous. Mais en fait, ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des normes, des plafonds à ne pas dépasser. Parce que s'ils dépassent ces plafonds, déjà, ce n'est pas légal. Mais en plus, c'est le locataire qui devra payer plus. Or, le locataire, c'est vraiment des loyers qui sont déterminés par la loi. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils ne construisent pas sur l'île-Dieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va subventionner les logements qui vont être faits par Vendée Habitat, par exemple, à Saint-Sauveur.
Subvention de la mairie d'Île-Dieu, on est bien d'accord.
Oui, subvention directe, mais on ne pourra pas le faire tout le temps, ce n'est pas possible.
On ferme cette parenthèse, on retourne au surtourisme. Anne-Claude Cabic, les visiteurs respectent-ils les lieux de forte influence, notamment les plages, Port-Joinville, le port de la Meule, le Vieux-Château, j'en passe, et des meilleurs?
Oui, oui, oui. En règle générale, on n'a pas d'incivilité dans ces lieux-là. On a aussi, comme tous les ans, des protecteurs de l'environnement qui tournent autour de l'île et qui s'arrêtent pour en haut des plages, s'ils voient quelqu'un fumer, s'ils voient quelqu'un jeter, je sais pas, sur la dune. Enfin, voilà, qui font beaucoup de social.
Ils ont beaucoup de boulot, ces protecteurs de l'environnement ?
Ils ont beaucoup de boulot, oui, quand même. Mais ça se passe très, très bien. Et les gens qu'ils rencontrent, voilà.
Les gens qui roulent en vélo sur la dune, par exemple ?
Aussi, ça peut être ça. Mais en règle générale, ils sont bien, bien écoutés et ça ne va jamais au conflit, heureusement.
Autre point abordé avec vous, Anne-Claude Cabic, toujours, les résidents proches de la station d'épuration, va-t-il y avoir des travaux afin de limiter les nuisances olfactives et les mouches ?
Alors oui, bien sûr, on est toujours...
Oui, mais quand ?
Ah voilà, c'est ça, c'est quand ? Alors on est toujours sur le fait qu'on voudrait mettre en place un gazéifieur. Alors c'est vrai.
C'est quoi un gazéifieur, pour rappel, parce que...
Alors en fait, c'est un sécheur thermique. Voilà. Alors on va sécher les boues déjà. On va mettre en place des serres qui va capter les odeurs. Donc déjà, quand il y aura les serres, il y aura, enfin normalement, il y aura beaucoup moins d'odeurs et beaucoup moins de mouches. Et donc on va mettre un sécheur thermique qui va sécher les boues. Et après, grâce à ce sécheur thermique, on va faire un gazéifieur qui va transformer...
Compliqué comme, comme système, mais...
Comme système, mais en fait, avec les plaquettes qui vont être faites par la gravère, il va être alimenté par les plaquettes de bois qui vont être fabriquées à la gravère. Donc tout ça, ça va être mis en place, mais beaucoup plus tard pour le gazéifieur. Mais en tout cas, pour le sécheur de boue, qui est la première étape, ça, on vient de signer un marché. Donc, les serres, c'est pour 2025. Le sécheur thermique, ça va être, et le gazéifieur, enfin, en même temps, le sécheur 2025, je pense, et le gazéifieur après, en 2026.
Serre 2025, début 2025, milieu 2025 ou fin 2025?
Je ne dirais rien au niveau du délai,
timing.
Parce qu'en fait, à chaque fois, on dépasse, donc... Maintenant, je suis très prudente quand je dis des délais.
C'est compliqué aussi de savoir exactement quand ça pourra nous être installé. Là, on vient juste de signer le marché. Voilà, on est aussi un peu contraint avec les entreprises qui viennent. Donc, difficile de dire un délai.
Carole Charot, où en est le projet de rénovation et l'expansion de 2000 m² du village vacances Les Violettes?
Alors, c'est une extension de 1000 m², hein. C'est pas 2000 déjà.
C'est bien de le préciser.
Oui.
Et de rectifier surtout.
Et en fait, là, il y a un recours. Il y a un recours de quelques résidents qui sont des riverains, en fait, qui bordent le chemin des Violettes. Et en fait, ça a été stoppé, puisque les travaux, normalement, devaient être faits cet été. Mais là, tout est bloqué par rapport au permis qui a été attaqué. Et donc, c'est le tribunal qui va faire son jugement, en fait. C'est vraiment lui, le juge, qui va dire oui, c'est légal, non, c'est pas légal. Et en fonction de ça, les centres de Violette va pouvoir exister ou pas.
Le jugement sera rendu quand ? Est-ce que
Alors,
vous le savez déjà ?
On ne sait pas. C'est vraiment la justice. Là, c'est pareil, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans. On ne sait pas du tout.
C'est plutôt 1 an, 2 ans même.
On ne sait pas. On ne sait pas du tout.
Donc pour l'instant, c'est sur stop. On peut dire
c'est
ça comme ça.
C'est sur stop. Ce que je peux rajouter,
est-ce que vous avez bon espoir ou pas?
Les avocats se contredisent entre eux. Donc, il y en a qui disent que, parce qu'on a pris plusieurs avocats, il y en a qui disent que ça devrait passer, il y en a qui disent que ça ne devrait pas passer. En fait, c'est par rapport à la loi littorale. Mais celle-ci est très... Disons qu'elle peut être interprétée de différentes façons. Et c'est pour ça qu'on a délivré ce permis. Parce que si on écoutait que la loi littorale... on ne délivrerait aucun permis de construire. On est sur une île. Donc forcément, on est tout autour du littoral. Ce n'est pas possible. Donc, il y a les 100 mètres, mais il n'y a pas que ça dans la loi littorale. Il y a aussi l'extension d'urbanisation. Et cette extension d'urbanisation, si on l'intégrait tout le temps dans nos permis de construire, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de maisons qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair. En fait, c'est pas qu'on dévie, c'est pas qu'on est illégal, c'est pas ce que je veux dire, mais on l'interprète de différentes façons. Et toutes les îles font la même chose, ça c'est clair aussi. Mais ce que je veux rajouter, si je peux
je vous
me permettre,
en prie, Carole.
C'est que je suis très en colère par rapport à ce centre de Violette, qui est un beau projet. C'est un beau projet parce que les gens qui font ce projet, ils sont venus nous voir il y a quelques années maintenant. C'était des étudiants et qui de Clermont-Ferrand, puisque c'est le centre Michelin. Et en fait, ils sont venus nous voir et nous ont dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'île Dieu ? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire de ce projet ?» Et en fait, on a travaillé ensemble, on l'a construit ensemble dans notre tête. D'ailleurs, si ce projet voit le jour, la mairie aura une participation dans ce projet. On va couvrir la piscine pour que tous les îlets puissent y aller toute l'année, par exemple. On est aussi contributeur, on aura des parts sociales dans la société pour pouvoir pérenniser ce projet, parce qu'on n'a pas envie du tout que ça devienne un complexe hôtelier haut de gamme. Pas du tout. Donc, en fait, on aura notre mot à dire et ils l'ont vraiment compris.
Vous pouvez entendre aussi que les riverains ont des craintes par rapport à cette piscine, par rapport au bruit, par rapport aux personnes que ça va emmener à ce centre des Violettes, non ?
Oui, on peut entendre leurs craintes. De là à faire un recours pour tout bloquer, je trouve ça exagéré. On aurait pu discuter en amont et trouver des solutions. De toute façon...
Car vous n'avez pas discuté en amont ?
Ah, ils ne sont pas venus nous voir, non ? Non, ils ne sont pas venus nous voir. Ils nous ont...
Et vous n'avez pas été les voir, en contrepartie ?
Bah, je ne pensais pas.
Ouais, voilà.
On pensait pas qu'il y
ait. Ah oui, vous pensez que ça allait passer, on peut dire crème. On peut dire ça comme ça.
Peut-être pas crème, mais voilà, c'est quand même un beau projet. Le tourisme social, c'est quand même important. Ça veut dire que aussi, tous les gens qui ne peuvent pas se payer des locations à des prix n'ont pas le droit d'avoir un accès à l'île Dieu. Non. Moi, je suis contre.
Ça permet.
Tout le monde doit pouvoir avoir le même accès sur notre île.
Carole.
Ça permet, en fait, à des classes moyennes de venir nous voir, tout simplement, des Ligériens, des gens de la banlieue parisienne, des gens de Clermont-Ferrand ou d'ailleurs, et qui ont en fait envie de voir notre littoral. Je ne vois pas pourquoi l'île-Dieu serait réservée aux plus aisés. Ce n'est pas possible, ça.
Anne-Claude Kabilic, on passe du coq à l'âne aujourd'hui, mais c'est aussi ça qui est bien. Ouverture de l'ancienne corne de brume à partir de quand ?
Alors, c'est ça aussi, c'était un projet qui a été commencé par Bruno et le département il y a quand même pas mal d'années.
Combien d'années ? Est-ce que vous en souvenez ? Oula !
Bon, je dirais une bonne dizaine d'années, si c'est pas plus. Hein.
Oui.
Là
oui,
aussi,
c'est
pas 10 ans.
Plus. Ouais.
On a l'impression que tout prend du temps sur l'île Dieu.
C'est pas que sur l'île Dieu. Hein. je crois que dès qu'il y a des mairies, des départements, de la région, voilà, tout est compliqué. Donc, les travaux...
Il y a trop d'interlocuteurs, c'est ce que vous nous dites.
Ouais, c'est ça, trop d'interlocuteurs, trop de normes à respecter, trop de cabinets d'études, enfin voilà. Et du coup, là, les travaux ont commencé en janvier 2024 et se sont terminés au mois de juin. Donc, ils ont été menés par le département avec un cabinet, le cabinet de Marie-Pierre Niguès, architecte du patrimoine. Le coût de la restauration est quand même de un peu plus de 236 000 euros. Donc, ça a été restauré à l'identique. Il y a juste les fenêtres aveugles qui sont situées de part en part qui ont été ouvertes et vitrées avec pose d'un grillage de protection. Et le revêtement sur le bâtiment d'origine et le bâtiment qui a été refait, qui n'est pas le même, pour justement montrer que la réfection ne date pas de la même époque. Donc le département a aussi prévu une porte à système de fermeture automatique programmable afin de pouvoir ouvrir et fermer le bâtiment à des horaires bien définis, ça ce sera par la commune. Et un groom sera posé sur la porte côté intérieur, au cas où bien sûr quelqu'un resterait enfermé au moment de la fermeture. Ce sera embêtant.
Ça serait embêtant.
Avec un panneau solaire. Ouais,
c'est une première en fait qu'ils aient mis un système comme ça de fermeture automatique, surtout à cet endroit-là.
Ouais.
On craint que ça puisse tomber en panne, parce qu'avec les embruns et tout ça. Donc, on va essayer, on va bien voir ce que ça va donner.
Ouverture au public à partir de quand ?
Alors, nous, on va mettre en place la valorisation intérieure. On va faire un petit musée un peu, qui relate un peu l'histoire, des illustrations qui ont été faites par Jean-Benoît Héron, notamment. Des photos d'épaves, enfin voilà. Donc, l'exposition ouvrira ses portes à l'occasion des Journées du patrimoine. Cette année, donc en septembre prochain, de 9h à 18h. Donc, c'est quand même bientôt. Et l'inauguration officielle, après, se fera...
Le 23 octobre.
Voilà, au mois d'octobre, parce que le département ne pouvait pas venir avant. Mais quand même...
Tout est calé.
Tout est calé, voilà. Donc, on remercie aussi toutes les personnes qui ont contribué à ce beau projet, que ce soit le patrimoine à l'île-Dieu, les différentes associations comme les Anges. Enfin, c'est un beau projet et n'hésitez pas à aller voir, même si ce n'est pas ouvert. Moi, j'ai été faire le tour l'autre jour, c'est impressionnant.
Avec les cornes derrière, les sirènes.
Les cornes derrière, là, c'est... Je ne pensais pas que c'était aussi grand et c'est vraiment magnifique. Donc, n'hésitez pas.
Autre projet, Carole Charouot, le pôle culturel rue du Petit Chiron va ouvrir ses portes à partir de quand ?
Alors, là, c'est un gros projet qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard avec le Covid, une défection d'entreprise qui nous a mis dedans, en fait. Hein, donc, en fait, ça a retardé le chantier de manière vraiment très très importante, hein, plus de 2 ans de retard. Donc là, on fait les finitions, mais ça prend encore du retard. Donc je pense que la fin de l'année, ça devrait ouvrir, voire début 2025.
Fin d'année 2024, début 2025, pour l'ouverture à tous les publics.
Voilà, à tous les publics. Donc,
vous êtes optimiste ou pas ?
Ah oui, parce que là, vraiment, on en a marre. Enfin, je veux dire, les équipes, on ne sait plus comment leur parler. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment impatients. On a en plus fermé la bibliothèque municipale à l'école du Ponant. Ça veut dire que là, il n'y a plus d'emprunt de livres possibles. Donc, il faut que ça ouvre quand même. Hein. On est impatients. On a un petit peu mis du poing sur la table vis-à-vis des ouvriers. Vis-à-vis surtout du maître, du maître de chantier, de projet. Et en fait, on va pouvoir ouvrir cette médiathèque, mais ce n'est pas qu'une médiathèque. Il y a aussi tout ce qui est service de patrimoine, archives, Fab Lab, donc avec des machines qui seront mises à disposition des jeunes et des moins jeunes, genre une imprimante 3D, une brodeuse, des choses comme ça. Mais bien sûr, avec une animatrice qui pourra guider les personnes. Et puis, le musée Microfolie. Alors, qu'est-ce que c'est un musée Microfolie ? C'est un musée dans lequel vous pouvez accéder aux autres musées nationaux ou internationaux grâce à un grand écran. Et par exemple, vous mettez Musée du Louvre, la Joconde, et vous la voyez en un énorme écran. Donc, c'est comme si vous étiez un peu là-bas. Et ça permet de voir des musées, même si on est encore à l'île-Dieu.
On se donne rendez-vous fin décembre 2024, début 2025. Le rendez-vous est pris, Carole Charouot.
Oui.
Anne-Claude Kabunik, avant de se dire au revoir, plus léger peut-être. Les Jeux au complexe sportif et au square Turbet sont-ils accessibles à tous les publics ?
Oui, ça y est. Les Jeux ont été ouverts. Donc, au complexe sportif, on a mis en place notamment le Pump Track, qui rencontre un énorme succès pour tous les âges. Les enfants sont contents, les parents, grands-parents sont contents. Enfin, vous pouvez y aller, il y a toujours du monde. C'est vraiment une... remercier Rémi, qui fait partie de notre équipe et qui a œuvré, Rémi Bonin, qui a œuvré vraiment à ce que tout se déroule bien et c'est vraiment magnifique.
Responsable du sport, Rémi Bonin, la mairie de Lille.
Les agents des services techniques.
Bien sûr, qui ont installé.
Hein, parce que... Aussi, ils ont installé, ils nettoient tous les jours aussi. Enfin bref, ils sont très contents, les agents du complexe sportif, d'avoir œuvré pour ce... Hein, c'est vrai, hein, c'est un beau succès, vraiment. Il n'y a pas que le... Enfin, je te laisse continuer.
Il n'y a pas que le Pump Track, mais c'est vrai que ça fait une animation supplémentaire en complexe sportif et ça amène des publics qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voyait plus. Donc,
et un petit peu plus loin, il y a aussi des jeux pour le jeune public.
Et voilà. Et donc, au Square Turbet, tous les jeux ont été remplacés donc sous le thème du pirate.
Du bateau pirate.
Un bateau de pirate. Donc, depuis que ça a ouvert, c'est toujours plein. C'est encore passé là devant il y a un quart d'heure, c'était plein. Donc, ça aussi, c'est pour les plus petits. Mais bon, on entend chanter quand on passe. Enfin, c'est
le bonheur. Ouais,
voilà,
vraiment.
C'est ça.
Carole Charouot, maire de l'île-Dieu, un dernier mot peut-être avant de se dire au revoir, rapidement.
Passez une bonne saison pour ceux qui travaillent, hein, vraiment, parce que la saison, c'est toujours intense pour les îlets. Et puis pour les vacanciers, j'espère que le beau temps va arriver, hein, parce que là, c'est quand même pas terrible, qu'il y a un beau festival qui va nous attendre aussi, et puis plein de manifestations, les escales lyriques, enfin plein de choses. Donc, profitez-en bien, les vacanciers, les résidents secondaires. et tout ça dans la bonne humeur.
Anne-Claude Cabic, première adjointe à la mairie de Lille-Dieu. Peut-être un dernier mot avant de dire au revoir.
Eh bien pareil, moi je dis à tout le monde de bonnes vacances, profitez de Lille-Dieu, tous ceux qui travaillent, bien sûr, bon courage, mais profitez aussi quand même le week-end. Et puis voilà, on va faire que cet été soit le mieux possible, malgré le temps.
Merci à vous deux d'être venus sur Neptune FM. À très bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.